Radio Grand Ciel, clé en main, Alain Roumestan, heureux de vous retrouver en ce mois de mai, après l'émission sur la Libye, qui m'a amené à discuter longuement avec vous sur ce pays brûlant d'actualité. Aujourd'hui, votre émission mensuelle, avec des sujets que la presse traite peu ou ne traite pas, va s'installer chez Florence Forsyth, comédienne, metteur en scène, écrivaine. Elle a publié Les Brontë, Une histoire de la passion amoureuse, Le plaisir, Maria Cassarès, une actrice de rupture, chez Actes Sud, Jacques Lacarrière, et son roman Tu me vertiges, l'amour interdit de Maria Cassarès et Albert Camus. C'est ce livre notamment que nous allons évoquer avec elle, et Florence Forsyth était tellement passionnante que nous la retrouverons pour une deuxième émission en juin, toujours sur le théâtre des années 40 et de l'après-guerre, toujours sur l'immense tragédienne Maria Cassarès, et toujours sur Albert Camus. Elek Baksik et son album Guitar Conception, Jazz in Paris, ponctuera l'interview de Florence. Elek Baksik, un type formidable, le premier à avoir réalisé un intelligent compromis entre l'âme tzigane et le style américain, comme le disait un critique de jazz en 1963. Dans la première émission Clé en main que j'avais organisée pour Radio Grand Ciel, j'avais utilisé le roman de Florence Forsyth, Tu me vertiges, L'amour interdit de Maria Cassarès et Albert Camus, paru aux éditions Le Passeur, et j'avais présenté ce livre parce qu'il me semblait qu'un roman peut être en effet une occasion d'avoir clé en main une époque, clé en main des personnages, clé en main une réalité. Dans l'article que j'avais fait paraître sur Agoravox, Un amour fou de Maria Cassarès et d'Albert Camus, j'avais parlé de romans vrais, romans d'une intelligence et d'une recherche rare, d'un intérêt fort, beau texte, efficace, de l'ami intime de Maria Cassarès qui a précédé la parution de la correspondance des deux artistes. Florence Forsyth, merci de nous recevoir chez vous. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter, avant de présenter le livre, nous présenter, j'allais presque dire, votre vie, votre profession, vos activités?
Ma vie, c'est le théâtre. Ma vie, c'est le théâtre, c'est-à-dire que j'ai commencé très jeune, à Lyon. Le théâtre, et le théâtre, ça a été aussi Maria Cassarès. Que j'avais vu au Théâtre des Célestins à Lyon avec mon grand-père, parce qu'il y avait à Lyon ce théâtre à l'italienne, Et c'était à l'époque de Jean Meyer, qui donc avait été un comédien et un directeur de, un administ... il n'était pas administrateur du français, mais qui avait eu un rôle important au français sur toute une période de sa vie. Et Maria, qui elle avait été donc dans un parcours atypique en fin de compte, hein, par rapport à la tradition française du théâtre, puisqu'elle était, c'était une femme de rupture, hein, avec les institutions, avec les théâtres. Et donc, moi, je ne connaissais pas Maria Cazares, et c'était mon grand-père qui était amoureux fou de théâtre, qui avait joué Gringoire, qui m'avait emmené cet après-midi-là au Célestin. Et alors là, c'était extraordinaire parce que, si vous voulez, le rideau de scène s'ouvre et je vois sur scène une forme qu'une sorte de tronc blanc qui était là devant les spectateurs. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu la voix et l'actrice que je ne connaissais pas s'est retournée. Et là, c'était Maria Cazares. C'était Maria Cazares que je ne connaissais pas et qui, en même temps, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je suis retournée 6 fois, non, 8 fois même, au théâtre pour la voir, pour voir ce qui se passait, parce qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, on pourra peut-être en parler un peu ultérieurement. Alors, ma vie, oui, c'est le théâtre. Et théâtre parce que j'étais quelqu'un de très timide. Et je crois que c'est le théâtre qui m'a sauvée. Donc, j'ai fait le conservatoire à Lyon. En même temps, j'étais liée avec un écrivain qui s'appelle Charles Julliez, qui est donc un écrivain lyonnais, qui avait été élève à l'école militaire d'Aix-en-Provence. Et mon père était aussi enfant de troupe. Et donc, ça avait été Charles qui, dans un premier temps, m'avait initié, j'allais dire, au théâtre de Strasbourg, de Lee-Strasberg. Et c'était passionnant, c'était vraiment passionnant. Et j'avais vu surtout un spectacle absolument magnifique. C'était une adaptation, ou disons un découpage qu'il avait fait de Noces et de L'envers et de l'endroit au théâtre du Tolle à Lyon. Et c'était ma première, alors là, grande découverte d'Albert Camus. Hein? À travers ces deux textes où Camus exprime véritablement son rapport à la nature, à Tipaza, à tout ce qu'il aime en fin de compte et à tout ce qu'il va quitter. Et en même temps où il témoigne véritablement de sa vie et de la vie de sa famille aussi dans L'envers et l'endroit avec sa mère. Avec sa grand-mère aussi, maternelle. Et ça avait été vraiment un choc pour moi. Et là aussi, ça a été, c'était fait, c'était une représentation théâtrale. Il y avait un acteur extraordinaire qui était Louis Bélière de la Comédie de Saint-Étienne qui était là. Et il y avait l'amant de Saint-Jean en fond musical. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc, c'est ça qui m'a amené. À vivre cette aventure. Et puis après, bon, je suis partie sur Paris parce que je savais très très bien qu'à Lyon, il n'y avait pas de possibilité de faire de théâtre. Et donc, j'ai balayé tous les cours d'art dramatique de Paris. Aucun ne me convenait. Voilà, je trouvais que c'était trop formel, en fin de compte. Et puis, j'ai tenté le concours du conservatoire à Paris, que j'ai échoué brillamment. Dans le Sphinx de la machine infernale de Cocteau, et puis dans un autre texte de Tchekhov, si ce n'est qu'il y avait une personne qui était là, parmi les membres du concours, c'était Viviane Théophilides. Viviane qui avait travaillé avec le théâtre de Montpellier, et donc, elle m'a fait un petit signe, et puis le lendemain, je cherche son nom, et puis je trouve son nom dans l'annuaire, et je l'appelle, on se voit, et elle me dit, je savais que vous m'appelleriez, et donc on discute, et puis elle m'a permis de faire mes classes, alors que je n'étais pas inscrite au conservatoire, même pas en auditrice libre. Et donc, je suis allée, toutes les semaines, je venais à Paris par le train pour assister à ces cours. C'est comme ça que j'ai commencé la mise en scène. Et puis, parallèlement, je suis rentrée très vite à Radio France, à France Culture, grâce à Charles Julliez, qui avait donné un manuscrit, enfin une adaptation que j'avais faite d'un roman, non pas d'un roman, d'un journal, qui était le journal de Hetty Le Soum, qui venait juste de sortir. J'étais une des premières à l'avoir eu entre les mains. Ce qui s'est passé, c'est que il y a Claude Mettra, qui donc était producteur à France Culture, des Chemins de la Connaissance, et puis un jour, j'étais dans mon petit pigeonnier, rue de Bretagne, le téléphone sonne, j'entends une voix qui me dit « Écoutez, il faut que vous veniez pour me voir parce que c'est bon pour Hetty Le Soum. » Alors, je dis « Oui, mais vous êtes qui ?» Il me dit « Je suis Claude Mettra, donc vous venez rue du Thau. » Et donc, je suis allée rue du Thau, chez Claude Mettra, et c'est extraordinaire parce que c'était un petit appartement. Il y avait des livres de partout. Il y avait des sortes de mandragores, comme ça, qui pendaient, des choses, avec des écritures sur les murs, enfin c'est extraordinaire. Et il y avait cet être qui était absolument magnifique. Un être hors du commun qui était Mettra, et donc avec ses beaux yeux bleus, c'était un peu sur le visage, pour le présenter, c'était un peu, il avait un visage d'Artaud presque, hein, Claude. Et il a parlé de tout et de rien, mais de parlant de rien, il parlait de tout, de beaucoup de choses. Et à la fin, je lui dis, parce que bon, ça a duré, et à la fin, je lui dis, mais est-ce que j'ai l'émission ou pas? Il me dit, mais bien sûr. Et voilà, et comme, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la radio. Et puis très vite, je suis rentrée au Théâtre Populaire de Sarcelles, où là, c'était un peu différent parce que c'était un Brecht. Enfin, Jacques Salomé était un Brechtien pur et dur. Mais entre-temps, ce que j'avais fait, moi, j'avais travaillé aussi sur Gombrowicz, sur Stanislavski, et Grotowski. Et donc c'était une toute autre forme de théâtre que j'avais comme outil. Et voilà mon parcours en fin de compte de comédienne et de metteur en scène. Et puis ensuite, il y a eu l'écriture d'un livre sur les Brontë. Et puis un autre. Alors ça, c'était un livre où j'avais demandé à Claude Mettra de faire la préface et à Jean-Pierre Leonardini la postface, et puis ensuite il y a eu d'autres ouvrages, dont l'histoire de la passion amoureuse avec Aznav, et puis ensuite j'ai commencé à écrire toute seule une sorte d'abécédaire sur le plaisir, et puis il y a eu Maria Cazares, mon premier livre sur Maria Cazares, ensuite j'ai fait un livre sur Jacques Lacarrière, et puis le dernier livre là qui est Tu me vertiges. Thank you.
Justement, après cette apparition fulgurante au théâtre, Maria Casares, vous la revoyez, comment ça se passe? Et puis, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, nous expliquer en quelques mots comment elle est arrivée en France, comment elle a débuté sa carrière et comment elle est devenue cette immense tragédienne que l'on connaît?
Alors Maria, moi je l'ai rencontrée donc à Paris. C'était Claude qui m'avait demandé de faire une émission sur Écube. Maria venait d'avoir son Molière et je savais véritablement pas comment la contacter. Je connaissais pas son agent et en désespoir de cause, je prends l'annuaire, j'ouvre les pages de l'annuaire, je regarde assez Casares et qu'est-ce que je vois? Casares, Maria Casares.
Heureux temps où on peut repérer des gens dans l'annuaire.
Voilà, absolument. Et alors c'était extraordinaire. Donc je vois 6-8 rue Asselin. Donc je prends mon courage m'arme de courage plutôt et alors j'appelle, j'entends sa voix, je dis allô. Et puis donc je lui propose de venir à Culture pour parler de Écube. Me dit d'accord et puis j'ose lui dire, écoutez, moi je vous ai vu, ça a été la chose la plus extraordinaire de ma vie parce que ce que je voyais, c'était pas une comédienne, mais c'était une œuvre d'art qui était en train de se sculpter par rapport à soi-même. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Je lui dis, j'avais l'impression que vous étiez comme une sculpture de Giacometti, l'homme qui marche. Donc on allait bien au-delà du théâtre, mais on était aussi dans la représentation. Et Maria me dit, oh là là, avec Meyer, ça a été terrible, ça a été véritablement terrible, c'était le cauchemar, c'est la pire des représentations que j'ai vécues. Et moi je lui dis, oui, mais moi c'est la plus belle des représentations que j'ai vues. Voilà, ça c'était l'entrée en matière. Et puis, Casares, c'est une personne... Je dis une personne parce que c'est aussi un monstre sacré, certes, mais en tant que femme, en tant qu'être humain, c'était quelqu'un d'absolument, d'une simplicité, d'une humanité, d'une acuité très grande. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voyait. C'était quelqu'un qui avait, comme disent les Espagnols, alba, c'est-à-dire qu'elle était droite. Mais véritablement droite. Et elle vous voyait, quand elle vous regardait vraiment. Et elle savait partager, des choses, non pas intimes, mais des choses qui l'avaient profondément marquée. Et elle en parlait avec une grande pudeur, en fin de compte. Une grande pudeur, mais avec une justesse qui était là et qui vous faisait être vous-même. Hein. Donc on pouvait dialoguer véritablement avec Maria, quand elle le voulait, bien sûr. Hein. Et moi je me souviens de la première rencontre que j'avais eue avec elle, On dînait et je lui parle de Camus. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'il avait de différent des autres? Il me dit, il savait rendre les autres intelligents. Ça, voilà. Et elle m'avait dit aussi qu'il était comme sur un fil, toujours sur un fil, comme un funambule. Et que on avait l'impression, enfin oui, il donnait l'impression, tout au moins, qu'il était toujours une sorte de déséquilibre, prêt à tomber à droite ou à gauche, et que en fait, parce qu'il portait le regard loin devant lui, à ce moment-là, il y avait toujours ce regard et cette tête qui était dans une sorte de vision, en fin de compte, hein, qui faisait que il pouvait se récupérer et avancer réellement dans la vie. Pour Maria, ce qui est singulier en fin de compte, c'est que c'est une actrice qui est devenue. Maria Cazares, elle n'avait pas la prétention ou elle n'avait pas le désir en fait d'être comédienne quand elle était petite. Elle habitait à La Corogne et je crois que on peut pas comprendre Maria Cazares si on ne n'intègre pas que en fait Maria est une Galicienne. Et ça, c'est vraiment très très important. On ne peut pas la comprendre si on n'a pas cette clé-là. Je crois que c'est véritablement, si vous voulez, l'imprégnation des paysages de la Galice, de l'océan Atlantique, où Maria, quand elle était petite, à 5-6 ans, elle allait sur la plage de la Corogne, sur les récifs, sur les rochers noirs, comme ça, et elle hurlait les werst du site de Guilaine de Castro. Et alors là, c'était absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait un défi, il y avait déjà le sens du défi, qui était naturel entre elle et les éléments, entre l'océan rageur, ce fauve indompté dont elle parle, dont résidente privilégiée, puisqu'elle a écrit ses propres mémoires. Et ça, c'était absolument extraordinaire parce que c'était quelqu'un qui, en fait, était prise dans la nature. C'était véritablement, elle aimait la nature. Elle aimait, par exemple, à Lavergne, quand elle était à Lavergne, quand elle travaillait Médée, par exemple, eh bien, elle se couchait sur la terre. Elle caressait les pierres, je me souviens. Donc elle avait une appréhension, une appréhension de la nature très très grande. La vie à la Corogne, dans un premier temps, était une vie quand même privilégiée, hein, parce que son père était avocat. Il était avocat, il était un fils de famille de la grande bourgeoisie galicienne, et c'était un esthète dans le sens du siècle des Lumières, enfin des encyclopédistes, des humanistes en fait du siècle des Lumières, voilà. Et donc à la Corogne, Santiago Cazares Quiroga était réputé pour avoir la plus belle bibliothèque de toute la Galice, et ça c'était une tradition de père en fils. Qui faisait que, et son père, donc le grand-père de Maria, et son père, reliaient eux-mêmes leurs livres avec de beaux cuirs qu'ils faisaient venir de Londres ou de Madrid. Et donc c'était un esthète, et c'était aussi donc un naturaliste, et surtout un homme politique, bien évidemment. Voilà. Donc Maria, je crois qu'au contact de ce père qu'elle aimait tellement, et Camus sera le prolongement un peu du père.
Il y avait du fusionnel là, oui, entre il y le avait, père et la fille.
Oui, tout à fait, complètement. Je pense que c'est vraiment Santiago Cazares Quiroga qui lui a donné cette éducation libre. Cette liberté aussi de penser, au moment où il y a eu un événement par rapport à la guerre d'Espagne. On n'était pas tout à fait dans la guerre d'Espagne à ce moment-là, on n'était pas. C'est-à-dire que Cazares Quiroga, il va y avoir un soulèvement de son parti lui étant un des leaders du parti, assigné à résidence après avoir fait de la prison donc à Jaca et à la Cárcel Modelo de Madrid. C'est un bon prétexte, c'est un joli prétexte pour que le père, donc Casas Quiroga, rentre à la Corogne et en tant que résident, où il ne peut pas sortir, eh bien, décide en fait de parfaire l'éducation de sa petite fille. Et c'est lui qui va faire l'éducation de Maria, mais c'est une éducation qui en fait est une éducation dans laquelle il y a une sorte de ce qu'appelait Maria la cruauté. C'est pas la cruauté comme les Français l'entendent, c'est de voir véritablement l'essence même du monde, de la vie, et d'essayer de comprendre les choses et d'essayer de les affronter même si ça fait mal. Mais il faut les voir en face. Voilà, je crois que c'est ça qui est aussi important. Et dans cette éducation, ce que ça a permis, je pense, au moment de la guerre civile à Maria, il y a eu, donc, bon, il y a la guerre civile, et donc Maria a 13 ans, et elle va aller à l'Institut ophtalmologique de Madrid, où il y a des soldats qui sont... qui arrivent par centaines de jeunes hommes qui sont là, et Maria les voit, elle les voit au seuil de la mort. Et je pense que cette vision de ces jeunes êtres qui sont là, qui sont des combattants, qui vont mourir, à son âge, à elle, je crois que ça a décelé son regard. Et pour une bonne fois pour toutes, elle a vu la mort. Alors, on sait que la mort, c'est aussi une des composantes ibériques hein, du tempérament espagnol. Mais je pense que c'est avec ce bagage-là aussi que Maria va pouvoir franchir le col des Pyrénées pour arriver en France. Et être prématurément, je vais dire, armée et mûrie, en fait.
Et toujours avec le mal du pays qu'elle a eu quand elle était en France, puisque à plusieurs moments, on se rend compte que l'Espagne compte beaucoup pour elle,
oui.
Et qu'elle n'oublie pas ses origines.
Non.
Même si elle est en France, même si elle est française, dans sa manière d'être, dans sa manière de jouer, dans sa manière de rencontrer Camus, on va le voir dans quelques instants.
Oui. C'est peut-être ce qui a attiré Camus, c'est l'Espagne en fait, c'est l'Espagne de Maria, parce que Camus avait un lien avec l'Espagne, évidemment, avec sa mère, hein, par rapport, je pense que, mais c'est une Espagne un peu fantasmée chez Camus, me semble-t-il, et Maria était l'incarnation pour lui de l'Espagne. Elle représentait l'Espagne, elle représentait la flamme ibérique, elle représentait ce que lui était cartésien. Hein. Et elle était sur le feu, sur l'intensité de la passion. Et donc je pense que l'un et l'autre se sont accouplés en fin de compte dans cette dichotomie presque du cartésianisme et de la flamme ibérique qui brûle, qui va se consommer très 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 vite pour se réalimenter autrement. Et je pense que Maria a été très importante pour Camus pour cette raison-là, c'est-à-dire c'est non seulement pour la compréhension de l'Espagne. Ce Camus prenait des cours d'espagnol hein, quand il a rencontré Maria. Mais aussi pour qu'est-ce que c'est que l'âme ibérique en profondeur. Et bon, je ne sais pas si il l'a véritablement intégré, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que l'on sait, c'est qu'il défendra toujours l'Espagne. Toujours l'Espagne républicaine, bien évidemment. Contre la dictature. Hein. Donc ça, c'était quelque chose qui était très, très important entre eux. Et c'est vrai que pour Maria, elle portait toujours... François Chang nomme la voix murmurante. C'est-à-dire qu'à la maison, chez les Casares, puisque Maria était arrivée uniquement avec sa mère, hein, Gloria Pérez Corrales, elles étaient arrivées en 1936, elles avaient été reçues par un couple de comédiens très célèbres à l'époque, qui était Pierre Alcover. Pierre Alcover, c'était un comédien dans la lignée de Antoine, donc du naturalisme, hein, du réalisme, c'était les quartiers de viande sur la scène. Colonna Romano, qui en fait était une comédienne de Sarah Bernhardt. Donc on avait d'un côté le côté élégiaque, et puis de l'autre côté le côté très, très on va dire, acteur studio. Voilà. Maria, à la maison, elle ne pouvait pas parler. Elle s'efforçait de ne pas parler l'espagnol parce qu'il fallait que, véritablement, elle apprenne le français. Et elle apprenne le français, et un français le plus pur qu'il soit, puisqu'elle était comédienne. C'est un ami qui a très bien connu Maria à cette époque-là, au conservatoire, quand elle est rentrée au conservatoire de Paris, dans la classe de Béatrice Dussane. Maria, en fin de compte, a quitté son accent au moment où elle joue les dernières représentations du malentendu. Donc elle a quitté cet accent rocailleux qu'elle avait, hein, et qui était son identité, et donc elle a francisé son âme pour devenir une comédienne d'exception. Mais vraiment, il n'y a qu'à lire par exemple les critiques de Claude Roy sur Casares quand elle fait son apparition. C'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose... En fait, compte ce que Maria Casares apportait au théâtre français immédiatement en 1942, quand elle rentrait chez Marcel Herrand et Jean Marchat au théâtre des Mathurins, c'est... au moment même où il y a une situation extrêmement tragique en France, c'est l'essence d'un tragique qu'elle apporte, et c'est la vérité de ce tragique-là qu'elle met directement sur scène. Par rapport à d'autres comédiens ou d'autres comédiennes, les comédiennes donc du français, du théâtre français, hein, de la comédie française notamment, qui elles sont dans une sorte de profération en fait de l'alexandrin, du dire. Maria, elle va tout de suite, dès son premier concours avec Bérénice, elle rompt l'académisme. Et elle apporte cette vibration de tout son corps, parce que Maria n'était pas grande, hein, elle était petite, elle faisait 1m57. Mais il y avait une telle intensité, une telle densité de présence qu'on avait l'impression qu'elle était immense quand on la voyait au théâtre, sur scène. Et je pense qu'elle a apporté quelque chose de différent, mais qui n'a pas été vraiment compris aussi, bien souvent.
Radio Grand Ciel.
En ce qui concerne donc Albert Camus, puisque nous allons voir leur rencontre, Albert Camus dans les années 40, que fait-il ? Qui est-il ? Est-il connu ?
Alors Albert Camus dans les années 40 vient de quitter l'Algérie. Dans la mesure où il y a eu des problèmes assez importants d'ailleurs, en tant que journaliste. Et il y a ce moment vraiment bouleversant, c'est quand il part en Kabylie pour un reportage en Kabylie, où il dénonce la misère en Kabylie. Il va dans les villages de Kabylie et il voit des enfants qui sont rachitiques, qui sont là, même la terre, qui sont en train de gratter la terre et de prendre entre leurs mains, par exemple, je ne sais pas, une pelure de banane pour la manger. Et ça le bouleverse totalement. Et il ne peut absolument pas coopter cette chose-là. Et il la dénonce, il dénonce cette misère-là. Et je crois que c'est... Et donc il écrit ses chroniques, il écrit des chroniques, et il va être évidemment renvoyé parce que ça dérange énormément. Et donc effectivement, c'est Pascal Piat qui le fait venir en France, puisque Pascal Piat avait été nommé à Alger pour le Soir républicain, je crois. Mais Piat était parti, était reparti en France, et Camus, il avait dit à Camus de venir à Paris parce que Camus était fichu à Alger. C'était pas possible, il était. Il y a un épisode où il est arrêté, il va dans un commissariat, enfin, c'était quelque chose d'ignoble. Et donc, il arrive en France, et quand il arrive en France, il va à Paris, à France Soir, où là aussi, c'est un journal de midinette, comme il disait. mais pour gagner sa vie. Et donc, Camus, quand il arrive à Paris, bien sûr, il est venu déjà en 39, hein, mais donc il logeait du côté de Montmartre, dans un hôtel un peu louche. Et quand on lit les carnets, on voit bien qu'il y a quand même une sorte de tristesse, hein, de tristesse d'avoir quitté son pays, en fait. Et il est là, et dans ses chroniques, je crois qu'il y a une phrase où il dit « tout est gris, 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 gris ». Et donc, il y a une sorte de malaise, de mal-être, si ce n'est qu'il y a l'exode qui vient, qui est là, et il va partir donc à Clermont-Ferrand. Et il ira à Lyon ensuite, et c'est à Lyon où Francine Faure, qui est donc sa fiancée, en fait, va venir à Lyon, et donc Camus va se marier à Lyon avec Francine, qui va repartir tout de suite. Enfin, ils ont vécu quelques temps à Lyon, et je crois qu'elle est repartie à Alger, puisqu'elle était professeure de mathématiques.
La rencontre entre Maria Cassares et Albert Camus, nous sommes donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Ça se passe pour les auditeurs à Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que c'est une rencontre fortuite, ou est-ce que c'est une rencontre qui aurait pu être préparée par des amis, par exemple, ou...
Non. Alors là, c'est le hasard. Et alors ça, c'est absolument extraordinaire, parce que chez Cassares...
C'est important.
Voilà, c'est ça. C'est Maria qui est au théâtre des Mathurins, très bien. Elle a une amie qui s'appelle Zanie Campan. Et Zanie lui demande de l'accompagner à une fiesta chez Michel et Zette Léris. Là, Maria l'accompagne, très bien. Et puis, elles arrivent qu'il y ait des Grands Augustins au 53 bis, rue des Grands Augustins, qui est des Grands Augustins. Et effectivement, Maria, donc, et Zanie montent les escaliers. Et puis, là, il y a le tout Paris qui est rassemblé. Alors, bon, Maria n'était pas du tout une mondaine, hein, elle n'était pas du tout mondaine, mais elle connaissait quand même tout, ou elle était connue de tout le gratin, hein, parisien, de toute l'intelligentsia parisienne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a parmi les invités? Il y a Picasso. Picasso qui, en fait, a fait en sorte de jumeler deux choses. À la fois, il invite ses amis. Il invite ses amis, pourquoi? Il invite ses amis simplement parce que Max Jacob est décédé à Drancy le 5 mars 1944. Et donc, il veut faire une cérémonie, une fête, avec les amis de Max Jacob qui sont là. Donc, il y a Bataille, il y a Lacan, il y a Sylvia Bataille, il y a Mouloudji, il y a Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Sylvia Bataille, ils y sont tous, Claude Simon, tous, voilà, Dora Maar, et bien évidemment, l'éternel couple qui est Sartre et Beauvoir. Bon, tout cela, ils sont partout. Hein. Voilà. Et donc Maria arrive. Bon, je n'ai pas très 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 à l'aise dans cet appartement. Et puis, à un moment donné, donc, Picasso fait jouer sa pièce, donc le diable, le désir attrapé par la queue, et Maria voit une silhouette de dos qui est dans l'embrasure d'une porte, et qui tient ce qu'on appelle au théâtre un brigadier, c'est-à-dire c'est ce qui frappe les trois coups. Et puis, elle entend la voix qui dit des didascalies. Et cette voix l'émeut complètement. Elle est complètement charmée par cette voix, elle est complètement fascinée par ce dos Maria avait une sorte de passion érotique, en fait, pour les dos. Hein. Et donc, elle le voit, et alors là, elle n'est que ses yeux, enfin, elle oublie tout. Elle oublie tout et elle entend sa voix, elle garde cette voix dans son oreille. Il n'y a que ça qui la fascine en fin de compte. Et donc, elle va rencontrer Camus de cette manière-là, mais elle ne le rencontre pas tout à fait, puisqu'ils se croisent, se saluent, mais bon, pour l'heure, rien n'est dit, rien n'est fait. Maria s'en va, elle rentre chez elle, elle est accompagnée par Claude Simon, et puis voilà. Donc, c'est une amorce. Si ce n'est que Camus, qui a écrit le malentendu, hein, cherche un directeur de théâtre pour faire jouer sa pièce, et personne à Paris ne voulait donner à Camus la possibilité de s'exprimer, dans la mesure où on savait, pour de bonnes raisons, on savait que Camus, ou on soupçonnait que Camus était résistant. Et donc, les directeurs de théâtre, il n'y en avait pas un qui voulait prendre le risque. Et c'est le jour de l'enterrement, en fait, de Max Jacob, que Albert Camus croise Marcel Errand. Et donc, ils se parlent. Et Errand lui dit, écoutez, je crois que vous avez un manuscrit, si vous voulez, je le lis, et je vais voir si je peux le monter. Et donc, quelques temps plus tard, donc après la fameuse soirée donc, du 19 mars 1944, à ce moment-là, si vous voulez, c'est là où Errand tend à Maria le manuscrit du malentendu, il lui dit, lis, et puis si tu aimes, eh bien, tu vas jouer Martha. Et donc, Maria prend le manuscrit, elle le lit, elle revient au théâtre, elle dit je veux jouer Martha. Voilà. Et donc, Marcel Errand fait venir Albert Camus au théâtre, il fait venir les autres comédiens, et Maria est là aussi, et alors elle était effrontée, Maria, parce que ne défiez pas que l'océan. Hein. Bon, et elle se met face à Camus, et elle le jauge, elle le juge, elle avait de très très beaux yeux verts. Mais des yeux de menthe religieuse, hein. Et donc elle le dévore du regard, c'est-à-dire qu'elle le déstabilise totalement dans sa lecture, et à la fin du premier acte, il y a Errand qui dit, bon, on arrête, parce qu'il sent que Camus a la voix qui quand même commence à... Il s'essouffle, parce que, bon, il s'essouffle, il est très intimidé par Cazares, parce que quand on avait les yeux de Maria devant soi, c'était très intimidant. Et voilà, et l'histoire commence, leur histoire commence, comme cela. Thank you.
voilà pour la rencontre. Cette histoire, elle va se poursuivre donc dans le Saint-Germain-des-Prés de cette fin de Seconde Guerre mondiale, avec un certain nombre de polémiques, avec un certain nombre de discussions entre les intellectuels dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, voir quelle relation avec le fameux couple dont on parlait à l'instant, Sartre de Beauvoir ? Relation Camus-Cazares et Sartre de Beauvoir. C'est pas une chose facile.
Mm-hmm. Non, c'est ambigu.
Dans le livre, vous dites bien que Simone de Beauvoir est attirée par Maria Cazares.
Oui, parce que Maria...
Ça commence comme ça, d'un certain point de vue.
Voilà, ça commence absolument, ça commence comme ça, où Simone de Beauvoir était une femme très intelligente, qui aimait aussi les jeunes femmes. Et en même temps, elle ne sait pas qui est profondément Maria, parce que Maria est très silencieuse. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne se livre pas énormément, et d'autant plus qu'elle ne sait pas qui elle a affaire, devant quelle est la personne qui est en face d'elle. Il ne faut pas oublier que Maria Cazares est une réfugiée espagnole. Donc elle ne doit pas trop se livrer. Et Beauvoir est quand même assez, assez fasciné. Et d'ailleurs, on en trouve une trace magnifique dans La Force de l'âge. C'est un épisode un petit peu plus lointain. C'est quand il y a la fameuse fiesta chez les Dulin, où dans La Force de l'âge, elle note que Cazares était arrivée. Elle était très belle. Enfin, elle était magnifique dans sa robe de rochasse avec son rire éclatant. Voilà. Donc, le couple Beauvoir-Sartre, c'est un couple un peu particulier quand même. Camus en a fait les frais aussi, parce que au départ, quand Camus est arrivé à Paris, et donc il rencontre Simone de Beauvoir et Sartre, et Sartre lui confie sa pièce Louis Clos, en lui demandant de la monter et de jouer Garcin. Et comme Camus n'est pas persona grata à ce moment-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a un autre directeur, donc c'était le directeur du théâtre du Vieux Colombier, qui lui propose de mettre en scène Huis Clos, et Camus est éjecté. Donc il y a déjà quelque chose qui est quand même pas très 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 sympathique. Et par rapport à Sartre et Camus et Beauvoir, je pense que Maria n'aimait pas véritablement beaucoup Simone de Beauvoir. Elle était peut-être plus en accord avec, non pas la personnalité intellectuelle de Sartre, mais avec l'homme Sartre, parce qu'il la faisait rire. Et moi, je me souviens, un jour, j'ai été chercher Maria chez elle, rue Asseline, en voiture, et puis on était passé devant le théâtre des Blancs-Manteaux. Et elle avait commencé à chanter la chanson des Blancs-Manteaux que Sartre lui avait apprise. Voilà. Mais il n'empêche que au moment de l'homme révolté, ça a été quelque chose de terrible. Et là, Maria a soutenu véritablement Camus, parce que c'était d'une injustice absolument effroyable. C'était véritablement une sorte de lynchage intellectuel qui faisait que Sartre n'avait même pas eu le courage de d'écrire lui-même son article. Il l'avait fait écrire par son sous-fifre, par Janson. Et ça, je pense qu'il y a eu quelque chose d'abîmé entre un Sartre qui traitait quand même Camus de voyou d'Alger, et en même temps un Camus qui était en prise avec à la fois la maladie, à la fois la désertion autour de lui. Ça, c'est une autre période. Hein. Et donc, je crois que c'est... Il ne s'entendait pas très, 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 très bien, même quand il y a le malentendu, donc le soir. La soirée du malentendu. Hein, on est en 1944, et dans la salle, il y a donc le couple, moi j'appelle le couple un peu infernal, donc Sartre-Beauvoir, il y a Jean Marchat, et les Gallimard, hein, Jeannine et Michel Gallimard. Et c'est tout pour Camus, c'est tout. Et donc il va falloir que, dans la salle, il y a donc les Sartres qui sont là, Sartre et Beauvoir, mais ils ne sont pas véritablement dans la compassion. Hein. Ils reçoivent mal la pièce. Et cette pièce qui, aujourd'hui, cette pièce est magnifique. Enfin, je veux dire, on entend cette pièce. Hein. Bon, et elle dit beaucoup de choses. Ils l'ont refusée. Ils l'ont refusée parce qu'il y avait de la jalousie, quoi, tout simplement, en fait. Et comme disait Maria Camus, quand Camus lui disait, mais... Sartre est jaloux, elle lui disait Sartre est jaloux de toi, mais enfin tu. Bon, alors il lui disait pourquoi, mais parce que t'es un beau gosse, quoi. Mais bon, c'est pas que ça, bien évidemment. C'est toute une querelle idéologique et une sorte de. Plus que de querelle d'ailleurs, une guerre idéologique hein, entre. Voilà, et donc Maria, il est vrai que, je crois que Maria, oui, m'avait raconté qu'elle avait, assisté à des palabres, comme on dit en Espagne, qui avec Sartre, Beauvoir, toute la clique, et ça l'avait mis dans un état de colère absolument épouvantable, parce que c'était injuste, quoi, il y avait quelque chose de terrible.
Et on était... pas du tout dans le débat qu'on aura après la guerre sur le communisme.
Ah, oui.
Où là, ça va être encore beaucoup, beaucoup plus sanglant avec la volonté, en effet, de faire passer Camus pour un horrible bonhomme, alors que la parole sacrée, c'était « Vive l'Union soviétique et vive le communisme ». Stoppons là l'interview de Florence Forsyth. Cette interview sera rediffusée ce soir à 20h et vendredi prochain à 21h. Et elle sera disponible sur le site de la radio, radiograndciel.fr. Je vous rappelle mon mail, alainroumestan@gmail.com. Rendez-vous à nouveau avec Florence Forsyth en juin pour une deuxième émission, avec la suite de l'histoire fusionnelle d'Albert Camus et Maria Cassarès. Vous venez de passer une heure en notre compagnie, clé en main Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, qui nous rapproche. Thank you.